Bonjour à tous. C'est un numéro d'Actuel un peu exceptionnel que je vous convie aujourd'hui et qui aurait pu s'appeler non pas Actuel mais Sacrées Images, puisque Sacrées Images, c'est le nom de l'émission que fait sur cette antenne Anne Imbert qui est notre invitée. Bonjour Anne.
Bonjour Michel.
Alors Anne, nos auditeurs ne le savent pas forcément, vous êtes historienne de l'art et vous êtes co-commissaire de l'exposition sur Sébastien Bourdon qui a ouvert et qui a commencé il y a une semaine au Musée national de Port-Royal des Champs et qui va durer jusqu'au 16 décembre de cette année. Et c'est une exposition que j'ai eu la chance de voir déjà, absolument exceptionnelle. On verra pourquoi, à la fois par les œuvres qui sont représentées et la qualité du peintre. Alors Sébastien Bourdon, Anne Imbert, il faut d'abord que vous nous disiez de qui il s'agit, parce que ce n'est pas un nom très connu des Français.
Alors, les auditeurs de Fréquence Protestante devraient le connaître parce que j'avais fait un 1000 et des 100 en 2016 à propos de l'anniversaire de sa naissance. Sébastien Bourdon est montpelliérain. Il naît donc en 1616. Il est peintre très tôt. Il va se former en Italie. Il a une vie un peu mouvementée. Et il fera une grande carrière à Paris à partir du moment où il aura obtenu la commande d'un mets de Notre-Dame. Tous les ans, les orfèvres de Paris offraient un tableau à la cathédrale et il a eu la chance de décrocher la commande du mets de l'année. Je n'ai plus à la seconde en tête.
Et on peut toujours voir le tableau qu'il a fait qui est à Notre-Dame.
Qui est à Notre-Dame. Mais Notre-Dame est un musée de peinture gratuit absolument extraordinaire. Donc Sébastien Bourdon, quand je l'ai un peu découvert en 2016, il était peintre protestant. Il était notoire que Sébastien Bourdon était un peintre protestant, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question dans quelle mesure ce protestantisme se traduisait dans sa peinture.
Alors peut-être faut-il le replacer dans son époque. On est au XVIIe siècle qui va être le grand siècle de l'art français et vous le disiez tout à l'heure, il apprend à peindre très jeune, il part à Rome. Et c'est l'époque des Poussin, le Lorrain, des Lebrun, des frères Lenain.
Il les rencontre à Rome. Et il était très doué, si doué qu'il était capable de faire des copies, d'achever des tableaux que le Lorrain avait commencé. Et il en a tiré une réputation, pas de duplicité, mais enfin de souplesse, de manque de personnalité propre. C'est quelque chose dont nous pensons, Philippe Lue et moi, co-commissaire de l'exposition, qui n'est pas absolument indifférente à sa religion réformée. Parce que, étant réformé, il était a priori soupçonné de ne pas être très clair. Il y a là quelque chose qui... une réputation incertaine qui n'était pas seulement douée, liée à son talent.
Oui, parce qu'on est dans une période alors, où il y a une certaine liberté d'expression pour les protestants, puisque c'est après l'édit de Nantes, et avant, il mourra une quinzaine d'années avant la révocation de l'édit de Nantes. Oui. Mais quand même, les protestants n'ont pas accès partout. Mais cela dit, il va être un des piliers de l'Académie royale de peinture.
Absolument, absolument. Mais il ne sera pas le seul protestant, parce qu'ils étaient trois ou quatre à la fondation de l'Académie. Parce qu'au début du règne personnel de Louis XIV, la situation n'était pas encore trop durcie pour les protestants. Dans la mesure où ils se conformaient justement à l'édit de Nantes et aux édits successifs, qui limitaient leurs pratiques religieuses, qu'il a corsetaient, ils avaient toute liberté de travailler dans la mesure où ils obéissaient aux demandes de leurs commanditaires. Et d'ailleurs, on se dit, nous nous sommes intéressés surtout au problème de la peinture religieuse, parce qu'il y a beaucoup de peintres protestants qui ont peint des fleurs, qui ont peint des portraits, ça n'a gêné personne.
Je crois que Bourdon fera des paysages à la fin de sa vie.
Oui, il fera des paysages, mais avec des intentions religieuses, en fait, parce que ce sont un peu des paysages mystiques, avec un Christ en train de parler à ses disciples dans un tout petit angle. Enfin, il y a, je pense vraiment que la peinture de Sébastien Bourdon est pleine de spiritualité.
Alors, dans cette exposition du Musée national de Port-Royal, il y a 37 œuvres. Elles ne sont pas toutes de Sébastien Bourdon. Il y a des contemporains de Sébastien Bourdon.
Non, pas vraiment, non. Non. Mais son œuvre est très variée, donc on peut s'y tromper. Ce que nous avons voulu présenter, ce sont des œuvres religieuses. Donc, mais religieux ne veut pas forcément dire une œuvre qui avait destination à être mise dans une église. Hein. Il a beaucoup peint pour des oratoires privés, ou bien des co-religionnaires protestants lui avaient commandé des tableaux pour leur château, pour leur intérieur. Et là, toute liberté était de choisir les sujets que le commanditaire souhaitait.
Alors la grande originalité de cette exposition, c'est les œuvres, comment on appelle ça,
les œuvres de miséricorde. Alors les œuvres de miséricorde, j'y suis arrivée parce que justement je cherchais une entrée théorique pour trouver du protestantisme dans son œuvre. Et j'ai découvert que Sébastien Bourdon avait peint 7 tableaux représentant les œuvres de miséricorde, ce qui est énorme parce que c'est un parallèle avec les 7 sacrements de Poussin. Mais les œuvres de miséricorde, vous savez ce que c'est, Michel ? C'est un texte de Matthieu 25 qui prescrit les œuvres qui doivent être accomplies pour obtenir le salut.
Alors, on peut lire ce verset de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu besoin de logement et vous m'avez logé. J'ai été nu et vous m'avez revêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'êtes venu voir. »
Voilà, alors on accomplit ces 6 œuvres plus la 7e qui est enterrer les morts et on est sûr de gagner son paradis. Voilà la théorie catholique.
Mais alors les œuvres de miséricorde, elles devaient être faites, mais très tôt dans l'art chrétien, on les a représentées.
Absolument. Et on les a représentés en relation directe avec leur contexte eschatologique qui est le jugement dernier. Donc on trouve des œuvres de miséricorde dans les voussures de certains portails de cathédrales. Et moi je me suis intéressée surtout à la gravure et il y a des séries où on a la représentation des 7 œuvres et avec un jugement dernier.
Par exemple, j'ai vu que beaucoup d'artistes avaient fait des œuvres de miséricorde. Il vient d'ouvrir une exposition sur le Caravage au musée Jacques Marandré. Je sais que le Caravage, je ne crois pas qu'elle soit dans l'exposition, a fait des œuvres de miséricorde.
Oui, nous n'avions pas les moyens. Et d'ailleurs, je crois que le tableau ne quitte pas Naples, effectivement. Mmh. Alors, donc, dans le monde catholique, très tôt, les œuvres ont été accomplies par des institutions, par des confréries, etc. Et donc, la confrérie de Naples, de Montepio, a commandé au Caravage un tableau représentant les œuvres qu'ils accomplissaient pour les chrétiens qui se contentaient de donner l'argent pour le faire. Et effectivement, le Caravage a représenté les 7 œuvres. La dernière, donc, c'est « Enterrer les morts », c'est extrait du livre de Tobie. Mais c'est absolument universel, c'est toujours Tobie qui quitte sa table pour attendre à aller enterrer des morts qu'un massacreur est en train de mettre sur le carreau. Mais là où le point de différence avec le protestant, c'est justement que pour les protestants, que pour Calvin, que pour Luther, la grâce ne se mérite pas. Le salut n'est pas obtenu par la rétribution de bonnes œuvres, mais elle est donnée par grâce. Elle est donnée gratuitement. Et donc, c'était assez étonnant que Sébastien Bourdon, bon calviniste, ait choisi ce sujet.
Mais alors on le voit dans les périodes qui ont précédé, c'est presque un passage obligé pour un peintre de faire cette série. C'était un défi de faire ces œuvres de miséricorde, qui étaient d'ailleurs en général assez bien vendues. Et donc, quand est-ce que Sébastien Bourdon va décider de le faire ? C'est plutôt au soir de sa vie.
Oui, c'est plutôt au soir de sa vie. Mais effectivement, alors là où notre exposition est exceptionnel, c'est que les 7 peintures de Sébastien Bourdon ont quitté très tôt la France. Nous ne savons pas exactement pour qui elles ont été peintes. Ce sont crans de toile. Et elles ont été achetées par les Anglais qui ont toujours eu beaucoup de goût pour Sébastien Bourdon. Il y a de nombreux tableaux de lui dans les collections anglaises encore aujourd'hui. Et puis, au début du XXe siècle, vers 1928, elles ont été vendues chez Sotheby et elles sont parties en Amérique. C'est un clown, Ringling, qui était propriétaire de Barnum, qui les a achetés pour le musée qu'il comptait offrir à ses concitoyens.
Alors il faut, Anne, que vous nous racontiez l'histoire, d'ailleurs, comment vous êtes partie sur la trace et comment vous avez retrouvé, bon, on savait, mais par des relations personnelles, ce musée américain et les toiles de Sébastien Bourdon dans ce musée.
Oui, c'est-à-dire que quand je me suis intéressée aux gravures que Sébastien Bourdon a faites à partir des toiles, j'ai rencontré une littérature qui disait « ces toiles sont ruinées ». Ruiné, ça veut dire impossible à voir, dans un état lamentable, ouais, etc. C'est la faute aux Américains, peut-être. Et j'en ai parlé à une de mes amies, spécialiste de Proust, qui est déjà venue à ce micro, Eliane Dezon-Jones. Et elle m'a dit, mais nous habitons Sarasota. Je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous introduire au musée Ringling. Et donc, je suis allée les voir. Je suis vraiment allée en Floride pour voir les Bourdons. Et puis, ils n'étaient pas si abîmés que cela.
Alors, ce musée Ringling de Sarasota, c'est en Floride, a combien de tableaux de Bourdons ?
Il possède les sept.
Les sept ?
Il possède les sept. Je n'en avais vu que deux sur place parce qu'il montrait ceux qui sont les plus flatteurs. Et donc, nous leur en avons demandé deux parce que c'est très coûteux de faire traverser l'Atlantique à deux grands tableaux. Et ils nous en envoyaient deux qui nous semblaient particulièrement intéressants par leur sujet parce que il me semble que ces œuvres de miséricorde qui sont incarnées par des scènes de l'Ancien... Enfin, qui représentent des scènes de l'Ancien Testament et les actes sont représentés par des héros de l'Ancien Testament. Sébastien Bourdon ne les a pas choisis tout à fait au hasard et qu'il avait des intentions à la fois théologiques et politiques dans le choix des héros en question.
J'ai entendu dire que le fait que cette exposition à Paris de Sébastien Bourdon, enfin en région parisienne, à Port-Royal des Champs, fait que le musée de Sarasota va peut-être se rendre compte qu'il avait des œuvres tout à fait exceptionnelles.
Nous espérons leur faire envie de faire venir ce que nous avons réuni et qui est peut-être une des choses importantes de l'exposition, c'est-à-dire à la fois les gravures qui sont de splendides de gravures, mais les plaques originales dont elles sont tirées.
Alors Anne, on va parler effectivement des gravures, en plus c'est votre grand domaine d'expertise, mais on fait une petite pause musicale avec Couperin, qui est un musicien de cette époque, avec les ombres errantes. Nous sommes en compagnie d'Anne Imbert, qui est co-commissaire de l'exposition Sébastien Bourdon, un peintre protestant avec un point d'interrogation, co-commissaire avec Philippe Luez, qui est le directeur du Musée national de Port-Royal des Champs. Anne Imbert, nous parlions des œuvres de miséricorde, des sept tableaux peints par Sébastien Bourdon, c'est donc au XVIIe siècle, qui se retrouvent Dans ce musée de Floride, mes deux œuvres sont présentées pour la première fois depuis le XVIIIe siècle en France. Mais à partir de ces 7 toiles, Sébastien Bourdon a fait des gravures. Et là, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a lui-même gravé ses œuvres.
Oui, alors il était traditionnel au XVIIIe siècle de mettre... Il n'y avait pas de photographie, comme vous le savez. Il était traditionnel de mettre en valeur sa collection de peintures, quand on était un riche amateur, en demandant à des graveurs professionnels de transposer dans la gravure sa collection de tableaux. Mais Sébastien Bourdon avait appris l'eau-forte en Italie dès sa formation, dès Rome, où il y avait une tradition de gravure originale, c'est-à-dire les peintres gravant eux-mêmes. Parce que l'eau-forte est une technique qui permet à un très bon dessinateur d'obtenir d'assez bons résultats. On a une planche de cuivre que l'on recouvre d'un vernis dur, comme un vernis de violon, et avec une pointe, on dessine. Alors évidemment, le tirage se fera à l'envers. Alors, ça a beaucoup de charme. C'est quelque chose qui a été beaucoup pratiqué par les impressionnistes après, parce que c'était une technique assez fluide. Mais évidemment, pour transcrire un tableau d'un mètre carré avec diverses couleurs et rendre compte non seulement des ombres, des lumières, mais donner un effet de couleur, il faut devenir un très bon graveur. Et c'est là où le fait que Sébastien Bourdon et décidé de graver lui-même ces 7 grandes plaques et de les dédier à Colbert et de les vendre chez lui, j'ai pensé qu'il y avait là un indice important de volonté, de diffusion des sujets qu'il...
Mais comme ça lui tenait à cœur.
Ça lui tenait à cœur. Oui. Mais comme vous êtes amateur de romans policiers, Michel, je dois vous dire que ces plaques gravées, nous sommes allés les voir pour la première fois.
Alors voilà, elles sont exposées. C'est très rare qu'on expose les plaques gravées. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. On peut les regarder avec une lumière rasante. On est sidéré de la multiplicité des traits. Je voudrais vous poser une question, Anne. Est-ce que quand on grave, il y a une possibilité de ce qu'on appelle un repentir ? On ne doit pas faire d'erreur parce que...
Si, il y a une possibilité de repentir parce que justement la plaque de cuivre est suffisamment ductile pour qu'on puisse écraser un trait malheureux pour regraver. Parce que le graveur d'eau-forte, lui, se contente de dessiner. Mais après, il y a tout un travail de trempage de la plaque dans un bain d'acide pour creuser les sillons qui ont été dessinés et obtenir des effets de lumière.
Et vous savez combien de temps les plaques font à peu près 60 cm sur
45.
Combien de temps il faut pour faire les milliers de traits?
Alors ça, c'est la recherche a du travail parce que nous n'avons pas pu savoir encore si Sébastien Bourdon avait un atelier chez lui. Mais nous avons donc eu la chance, à la calcographie du Louvre, d'aller voir les plaques qui étaient encore tirées. Hein, on pouvait encore acheter un tirage d'une gravure de Sébastien Bourdon à la calcographie du Louvre. Et les ouvriers de la calcographie nous ont sorti les plaques. Et en les regardant attentivement, nous nous sommes dit que c'était vraiment la plaque originale. C'était vraiment Sébastien Bourdon qui avait gravé ces plaques, parce que le dessin, le mouvement de sa main se lisait encore sur la plaque de métal.
Et puis son nom et son adresse apparaissent en bas, puisqu'il avait décidé de les vendre lui-même à son domicile.
De les vendre chez lui. Alors ça, c'est tout à fait exceptionnel pour un peintre de son importance. Il était quand même recteur à l'Académie de peinture et de sculpture du roi. Et effectivement, il les vendait chez lui. Alors, leurs sujets sont tels qu'on peut penser qu'il souhaitait veiller à leur diffusion.
Mais alors, si aujourd'hui on se dit, mais j'aimerais bien acheter une reproduction, alors là, pas forcément un tirage.
Un tirage, ça sera, c'est une des dernières, vous en obtiendrez un des derniers. Alors, ou bien il y en a quelques-uns dans le commerce de l'art, mais assez peu en définitive. Oui, c'était, il y a une vraie continuité entre les, la vie de ces plaques est connue depuis l'atelier de Sébastien Bourdon au Faubourg Saint-Antoine, près la Halle, et c'est passé dans une très grande collection du 18e siècle, qui est la collection Mariette, et après, la Révolution s'est passé dans les collections du roi et donc à la calcographie du Louvre.
Vous disiez tout à l'heure, Anne Imbert, que Sébastien Bourdon avait dédié cette série à Colbert, qui était le tout-puissant ministre de Louis XIV. Pourquoi a-t-il fait ça? Il le connaissait personnellement?
Oui, Colbert était le protecteur de l'Académie. Mais la situation des protestants après le début du règne personnel de Louis XIV, c'est-à-dire 1661, leur situation est devenue de plus en plus contrainte. C'est-à-dire qu'il... Il n'était plus dit ce qui leur était autorisé, mais on précisait ce qui leur était interdit. Et ce qui leur était interdit recoupe certaines œuvres de miséricorde qui sont représentées par Bourdon. Par exemple, enterrer les morts. Il n'était plus possible de suivre à plus de 30 personnes, dont les membres de la famille, un cercueil. Et ce devait être fait entre 6h du matin et 6h du soir, entre mai et octobre. C'était vraiment difficile. Visiter les prisonniers, il ne pouvait y avoir que deux personnes en chuchotant pour s'entretenir avec les prisonniers. Pour s'exprimer, Sébastien Bourdon a basculé tout ça dans l'Ancien Testament et là, il a retrouvé les coups des franges.
Oui, parce que sur d'autres tableaux, on s'aperçoit que les experts comptent le nombre de personnes, d'ailleurs de personnages qui sont représentés et disent, eh bien là, il n'y en a pas plus. Donc, c'est un enterrement protestant.
Oui, les indices, les signes sont toujours assez discrets et les gravures d'Abraham Bosse, qui sont assez connues pour la vie quotidienne de la France du début du XVIIe siècle, visiter les malades. On voit sur le mur d'un malade une affiche qui représente les 10 commandements avec la tête de Moïse. Et donc, il est plus que vraisemblable que le malade était protestant.
Alors, Anne, je rappelle à tous les auditeurs que c'est donc au Musée national de Port-Royal des Champs. On y va en voiture, c'est tout près de Saint-Rémy-de-Chevreuse, mais on peut y aller en RER, puis un bus. Mais ce n'est pas tout. Vous organisez dans le cadre de cette exposition un colloque de 2 journées, le 4 et le 5 octobre. Et ce colloque est intitulé « L'art religieux et les protestantisme en France avant la révocation de l'édit de Nantes. C'est un colloque international.
Oui, parce que nous avons l'appui de l'université de Louvain-la-Neuve. En fait, cette question du protestantisme et de l'image a été assez peu traitée en France. Autant ça a été analysé en Allemagne, en Angleterre, etc. Autant l'idée courante en France est que le calvinisme n'a pas d'image. Rien n'est plus faux. Calvin n'interdisait les images qu'à l'intérieur des temples. Chez soi, on faisait ce qu'on voulait. Et le risque de l'idolâtrie, c'était ça son objet. Effectivement, oui, il y a des artistes qui furent protestants, qui exercèrent pourtant leur art. Alors certains se sont limités, comme nous le disions tout à l'heure, aux portraits ou aux natures mortes ou à la vie quotidienne. Mais d'autres ont fait de grandes carrières de peintres religieux. Et nous aurons un certain nombre de spécialistes de la question. Nous aurons le plaisir d'avoir Philippe Joutard comme historien de référence pour nous tracer justement l'histoire précise de ce qui s'est passé entre l'édit de Nantes et sa révocation, les moments de détente sous Mazarin, les moments où la situation devient plus difficile. Et puis nous aurons des historiens d'art, par exemple Elodie Weiss qui est spécialiste des peintres qui s'appellent E2LE et qui venaient de Flandre et qui se sont installés autour de Saint-Germain-des-Prés. Il y a tout un Paris protestant qui a disparu, comme vous le savez, parce que Sébastien Bourdon, s'il fréquentait le temple de Charenton, qui était le plus près, de Paris, le seul autorisé, a été enterré au cimetière des Saints-Pères, qui a complètement disparu.
Oui. Et c'est, il y a toute une série de grands noms. C'est donc les 4 et 5 octobre. Vous trouverez toutes les données sur le site internet du musée. Anne, vous-même, vous faites une conférence le 13 octobre à 14h. Je ne sais pas quel jour de la semaine c'est le 13 octobre.
Je crois que c'est un vendredi.
Vendredi, samedi, 14h. Et bien sûr, là, c'est Bourton, peintre protestant. Et ça se passera sur place.
Oui, ça se passera au musée. Nous essaierons d'expliquer notre choix de tableau pour l'exposition. Et puis, je retracerai un peu l'histoire des œuvres de Miséricorde à travers le médium spécifique qui est la gravure.
La gravure, bien sûr. Quand vous parlez de choix de tableau, bien sûr, il y a ceux qu'on a envie d'avoir et on se bat pour les avoir, mais on ne peut pas forcément avoir ce qu'on veut.
Ah non, non, nous sommes contraints parfois par les dimensions des œuvres, et puis les musées ne souhaitent pas toujours vider leur cimaise, mais le Louvre nous a prêté un très beau tableau qui avait été peint pour le marquis de la Vrière, qu'il avait au-dessus de la cheminée de son château, et qui représente Salomon sacrifiant aux idoles. Parce que ça, c'est un thème tout à fait iconoclaste, hein. Le fait que Salomon, vieillissant, sous l'influence de ses femmes, redevient adorateur d'Astarté, qui n'est pas Yahvé, que je sache. Et il y a un autre tableau sur ce thème des icônes, des images. C'est Laban cherchant ses images, parce que son gendre, Jacob, les a emportés avec lui. Et donc Laban, désespérément, cherche ses idoles dans un coffre. Voilà, deux tableaux qui sont de thèmes précisément protestants.
Une dernière remarque pour les auditeurs. C'est vraiment une exposition exceptionnelle parce qu'on montre des tableaux et des gravures qu'on ne voit jamais, les plaques. Et un signe du caractère exceptionnel, c'est lorsque de l'inauguration où j'ai eu la chance d'assister, des personnalités comme Pierre Rosenberg, l'ancien directeur du musée du Louvre, sont venues.
Oui, tout à fait.
C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Un dernier mot pour conclure. Le catalogue, vous l'avez coécrit?
Oui, la réunion des musées nationaux a publié un catalogue qui correspond à cette exposition. Et il y a 4 essais assez approfondis sur les sujets qui touchent cette question d'un art protestant en France avant la révocation de l'édit de Nantes. Il est en vente.
Il est en vente dans toutes les librairies, oui, absolument. Oui, absolument. Anne Hébert, je vous remercie.
Merci à vous, nos
auditeurs trouveront aussi toutes les données et les renseignements pratiques sur notre site internet, fréquenceprotestante.com. Merci beaucoup.
Un jour comme un autre.